Merci beaucoup au groupe de louanges. Merci pour ce temps particulier que nous avons pu mettre et dans lequel nous avons pu nous retrouver face à notre Seigneur. J'invite maintenant Jean-Jacques à me rejoindre. Comme je l'ai dit, Jean-Jacques Mélon, c'est lui qui nous apportera la prédication. Et je vous propose de prier. Oui, Seigneur, nous te remercions à nouveau d'être au milieu de nous, d'être à nos côtés. Seigneur, j'aimerais te prier ce matin pour te demander d'ouvrir nos cœurs. D'ouvrir nos cœurs à ce que tu veux nous dire, à ce que tu veux nous partager par l'entremise de Jean-Jacques. Je te demande de le bénir, Oui, Seigneur, l'inspirer dans ce message qu'il va nous apporter. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Amen.
Amen. Merci, Patrick. Bonjour, chers amis, connus ou inconnus, sympathique d'avoir toute cette équipe des chefs flambeaux au milieu de nous. Merci pour la louange. Là aussi, des chants nouveaux et des chants anciens. C'est agréable de plonger dans toute la richesse du répertoire qui a été, oui, élaboré. Et puis, avec vous, eh bien, j'ai le plaisir de vivre ce temps de méditation. Alors, vous verrez que j'ai pris quelques distances par rapport au thème que j'ai annoncé, parce que voilà ce qui arrive souvent, c'est que lorsqu'on nous demande un thème, on a une idée, on a l'impression de pouvoir creuser et développer cette idée, et puis finalement, il y a certains sentiers qui se terminent par des impasses. Alors, il faut retrouver un autre chemin, un autre sentier. Voilà, de telle sorte que je ne suis pas tout à fait dans la ligne de ce que j'ai annoncé. Je vais méditer avec vous le chapitre 55 d'Ésaïe en lui donnant ce titre-là, « Les quatre saisons de la vie avec Dieu ». Alors nous allons lire ensemble ce chapitre 55 et puis je vous suggère de repérer vous-même ce que j'ai qualifié des quatre saisons de la vie avec Dieu. Alors je ne sais pas si votre choix sera le même que le mien, mais voilà, nous allons cheminer ensemble et essayer de comprendre la richesse de ce texte. Je le lis avec vous. Je le lis dans la version de la Nouvelle Bible Second, qui commence par une exclamation. « Holà ! Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain ? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc !» et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez, et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David, qui est sûre. J'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef qui commande au peuple. Tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne de la splendeur. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se lève, trouvez, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Oui, vous sortirez dans la joie, vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres battront des mains. Au lieu des buissons poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrte. Ce sera pour le Seigneur un nom, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Les quatre saisons de la vie avec Dieu. Alors ce serait intéressant de voir ce que vous avez repéré dans la lecture de ce texte. Pour ma part, je vais vous proposer cette compréhension suivante. Pour moi, la première saison que j'ai appelée la rencontre avec Dieu qui étanche ma soif, cette première saison couvre les premiers versets, les six premiers versets. Et en particulier cette exclamation qui commence par cette interpellation. « Oh là, vous qui avez soif, venez !» Alors là, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est une extraordinaire bonne nouvelle. C'est extraordinaire de pouvoir inaugurer notre vie avec Dieu par cette nouvelle qui est bouleversante et tout à fait fascinante. « Vous qui avez soif, vous les assoiffés du monde !» À tous les assoiffés que nous sommes, Dieu dit « Venez ». Le philosophe Blaise Pascal a dit une chose absolument remarquable à ce sujet-là. Il a dit « Il y a au fond de l'homme un vide qui a la forme de Dieu ». Il y a au fond de tout homme un vide qui a la forme de Dieu. Et ce vide, l'homme cherche à le remplir avec tout ce qu'il a sous la main. C'est normal, c'est naturel, c'est spontané. Il existe, il est là sur la terre avec ses joies, ses tristesses, avec ses envies, avec tout ce qu'il habite. Alors l'homme cherche à combler ce vide avec les distractions, avec le travail, avec le devoir, avec les activités quotidiennes. Un vide. Oui, nous sommes tous des hommes et des femmes assoiffés, assoiffés de justice. Ça se voit dans toutes les... Dans tous nos médias, on ne cesse de rapporter des événements politiques en rapport avec le critère de la justice. Est-ce que vraiment cet événement rend justice à ce que nous croyons être vrai? Assoiffé d'amour, assoiffé de paix, assoiffé de miséricorde. C'est le paradoxe des êtres humains. Toutes les guerres que nous faisons, c'est au nom de la paix. Mais bien sûr! Tout le monde désire la paix et nous faisons la guerre parce que nous croyons que la seule paix possible, c'est la paix que nous imposons, que nous régentons, la paix qui se passe comme nous le désirons. Et puis comme le voisin pense la même chose et que le voisin a les mêmes armes que moi, alors évidemment, nous allons partir en guerre les uns avec les autres. Et c'est pour cela qu'il y a une guerre incessante en Syrie à laquelle je ne cesse de penser. Et Lausanne y apporte sa contribution, puisque les grands de ce monde se trouvent à Lausanne pour essayer de travailler à la résolution de ce conflit, mais en pensant à eux dans la prière. Assoiffé d'amour, de miséricorde, d'harmonie et de paix. C'est si bien dit dans le psaume 42. « Comme une biche qui soupire sur le lit d'un torrent, ainsi, Seigneur, je soupire après toi. » Alors, je crois que c'est bon de sentir ce sentiment profond qui nous habite tous. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre notre identité chrétienne et notre attachement à Dieu si nous ne savons pas, si nous ne percevons pas, si nous ne réalisons pas que tout cela s'est initialisé dans un vide profond qui est au fond de nous-mêmes. Et Pascal disait que ce vide est tellement profond, infiniment profond, qu'il faut un personnage infini pour le remplir. Un personnage à la mesure infinie de Dieu. Alors nous avons cherché, comme je l'ai dit, dans les réussites professionnelles, dans les plaisirs hédonistes, dans les biens matériels, et j'en passe. Nous avons essayé de chercher quelque chose qui donne sens à notre vie, de quoi satisfaire nos besoins affectifs profonds. Et c'est vrai que nous avons aussi souvent été déçus, parce que ce que nous croyons comme étant la satisfaction de nos besoins profonds s'est révélé être un mirage ou une citerne. Ah, la citerne est là. On va ouvrir le couvercle de la citerne et puis on découvre qu'il n'y a pas d'eau dans la citerne. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Je trouve magnifique cette interrogation, mais qui n'est pas une interrogation qui pointe le doigt et qui nous culpabilise. Je vois là un Dieu qui tend la main puis qui nous dit, mais pourquoi est-ce que vous cherchez partout, sauf chez moi? Pourquoi vous cherchez là où vous ne trouverez pas? Des siècles plus tard, Jésus reprendra cette interpellation à son compte. Le dernier jour de la fête, Jésus se tenant debout, il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. » Dans le texte que nous avons lu, j'ai été frappé par deux mots. Tendez l'oreille. Tendez l'oreille. Tout commence par une parole, chers amis. Tout commence par une parole à laquelle nous avons donné crédit. Vous savez, tendez l'oreille, ça veut dire, dans notre société, il y a inévitablement un brouhaha de discours, un brouhaha d'opinions, un brouhaha d'expressions au travers de toutes les médias, les chaînes de télévision. Bon, je suis né à l'époque heureuse où nous n'avions pas de télévision. C'est ce que certains le prétendent, c'était une époque heureuse. Remarquez, on avait aussi nos malheurs. Bref, ensuite, j'ai dû apprendre chez mes beaux-parents les toutes premières télévisions. Puis là, il y avait combien? 2, 3, 4, 5, 6 chaînes. Quelle horreur. Maintenant que je suis à la retraite, soi-disant, je me suis mis aussi à la télévision et je crois qu'il y a 150 chaînes. Mais quelle folie. Quel brouhaha impossible. Et alors dans ce brouhaha impossible, il faut tendre l'oreille pour entendre une voix singulière. C'est ça l'effort du croyant. C'est ça l'effort du chrétien. Une oreille pour entendre une voix singulière. Et là encore, il ne suffit pas d'entendre Dieu qui nous appelle à venir à lui, parce qu'en fait, dans beaucoup de religions, on a aussi ce discours qui nous invite à exprimer, à présenter une figure de Dieu. Mais finalement, j'ai envie de dire seul, vraiment le Dieu en Jésus-Christ nous dit « Venez à moi ». Alors que tous les autres discours religieux, ça j'insiste, ce sont tous des discours qui disent respecter telle et telle règle éthique et morale ou pratiquer tel et tel rite. Que ce soit dans l'animisme que j'ai rencontré en Afrique, que ce soit dans le judaïsme, dans l'islam, dans l'hindouisme ou ailleurs, vous êtes soit dans l'injonction d'appliquer des rites, soit dans l'injonction d'appliquer des règles morales. Seul le Dieu de la Bible en Jésus-Christ nous dit « Venez à moi ». Vous sentez la différence? Il ne nous dit pas « appliquez ceci », mais il dit « d'abord, venez à moi ». Puis ensuite, toujours dans ce premier temps, il nous est dit « je conclurai pour vous une alliance perpétuelle ». Une alliance perpétuelle, c'est un des mots fondamentaux des Écritures, l'alliance. Parce qu'il nous apprend que nous sommes aimés par Dieu. Il nous apprend que Dieu désire vivre un compagnonnage avec nous. Nous avons tous envie d'avoir un compagnon, que nous soyons en couple, que nous soyons veufs, divorcés, séparés. Nous avons tous besoin d'un compagnon. Dieu nous propose une alliance perpétuelle, un compagnonnage. Une alliance est un contrat de solidarité, le contrat plus solide que toutes les assurances que la société nous offre. Voyez-vous, Dieu n'est pas un spectateur de la vie humaine, de votre vie, de ma vie. Dieu s'est impliqué dans ma vie. Dieu s'engage à mes côtés, à mon côté, et Dieu a choisi l'homme comme son partenaire pour conclure une alliance perpétuelle, une alliance d'un engagement réciproque. C'est que nous avons du prix à ses yeux. Voilà, c'est la première saison de la vie chrétienne. Vous qui avez soif, venez. Et là, bien, oui, nous qui sommes ici autour de à célébrer le Seigneur, eh bien, je n'ai fait finalement qu'évoquer l'émerveillement de la rencontre avec Dieu, l'émerveillement de cette découverte d'un Dieu qui est au-dessus de tous et qui vient combler mes besoins. Deuxième saison, visiter nos zones d'ombre. Ça, c'est curieux. Découvrir que le Dieu qui étanche ma soif me permet aussi de renoncer au mal et il me promet le pardon. Alors là, j'aimerais méditer avec vous tout simplement. Ça se résume dans un verset, que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui, qu'il revienne à notre Dieu qui pardonne abondamment. Donc, la première étape, la première saison, c'est le Dieu qui étanche notre soif. Et puis, une fois qu'on a rencontré ce Dieu, qu'on est devenu de ses compagnons et qu'on a cheminé avec lui, on découvre qu'il y a tout de même un certain nombre de zones d'ombre en nous. Bon, que ceux qui estiment que tel n'est pas le cas, ferment leurs oreilles, parce que c'est vrai, ce que je vais dire ne les concerne pas. Mais pour ma part, moi, je crois qu'en effet, il y a des zones d'ombre en nous. Tout n'est pas aussi lumineux, tout n'est pas aussi harmonieux, parfait que nous le désirons. Ne serait-ce que parce que nous avons tous hérité des histoires de famille qui ne sont pas toujours gaies. Ne serait-ce que parce que tous nous avons vécu des épisodes parfois difficiles, douloureux. Et puis nous découvrons nos passions, nos traits de caractère, lié à notre nature, notre nature. Alors certains appellent ça l'ancienne nature, oui, on peut. Enfin, c'est notre nature, bien présente. Si au moins c'était ancien, hein. Des fois on aimerait se dire, j'aimerais bien que ce soit ancien, mais non, c'est quotidien et ça me colle à la peau. Donc nous découvrons nos passions, nous découvrons nos faiblesses, nos peurs, nos jalousies. Nous découvrons les injonctions familiales dépréciatives. Tu n'as bon à rien, tu réussiras jamais dans la vie. Nous découvrons des rejets douloureux, des déceptions, des trahisons, même au sein de l'Église. Nous découvrons que notre vie avec Dieu est contaminée par ses ombres. Et cela nous désole, cela nous décourage, parce que nous rêvons d'être des bons chrétiens, des chrétiens lumineux, parfaits, à l'image de Jésus, mais bon. Et alors, on a oublié la deuxième partie du verset. Si on en reste à la révolte et au découragement, la deuxième partie du verset, c'est celle-ci. Eh bien, que celui qui a découvert ses ombres revienne au Seigneur qui aura compassion de lui. Celui qui a découvert ses ombres revienne à notre Dieu qui pardonne abondamment. J'aime ces redondances hébraïques. Compassion, miséricorde, pardon. Le pardon est auprès de Dieu. Et ce pardon abondant nous permet d'apprivoiser nos ombres. Vous savez, il est absolument vain de s'imposer d'une manière autoritaire un comportement que nous qualifierions de vertueux. Ça, c'est ce que nous avons un peu hérité de nos parents, nos grands-parents. Moi, c'est une image parentale très forte. Et mon père était un admirateur de Kant, et Kant a développé, irrigué toute l'Europe avec une pensée morale qui est très vertueuse, qui est très intéressante, mais qui a le défaut d'être purement morale, purement fruit de nos efforts et de nos efforts. Et alors, c'est pas comme ça que nous arriverons à apprivoiser nos ombres. Je vous recommande un livre extraordinaire de Jean Monbourquette qui s'appelle justement Apprivoiser nos ombres, Jean Bourquette. Donc, ce qui est important pour entrer dans cette présence de Dieu, c'est d'apprivoiser ses ombres et permettre finalement de les laisser aller, parce que je suis obligé de faire court, le temps passe, parce que ces ombres sont liées à notre ego et nous pouvons lâcher prise. Laisser aller notre ego. Nous pouvons laisser aller tout ce que nous avons cru nécessaire pour nous construire et pour nous charpenter, qui est parfois utile face aux autres, parfois utile dans des situations difficiles, dans la famille ou dans des contextes professionnels difficiles, mais face à Dieu, ce n'est plus nécessaire. d'être en lutte. Ce n'est plus nécessaire d'être dans la rébellion, dans la résistance. La rébellion est nécessaire contre un parent abusif, par exemple. Mais la rébellion n'est plus nécessaire face à Dieu. Et alors, dit Montbourquette, la mort de l'ego donne une toute nouvelle vision du monde, celle dans laquelle l'amour divin ressuscite ce qui était perdu. Je vous relis cette phrase tellement qu'elle est belle. La mort de l'ego donne une toute vision du monde, la vision de l'amour divin qui est l'amour divin qui ressuscite ce qui était perdu. Montbourquette, page 77. Donc voilà, cette deuxième saison, elle est certes douloureuse, mais chers amis, elle est une prise de conscience nécessaire. Nul n'y échappe, une prise de conscience salutaire qui nous conduit dans un vrai face-à-face avec Dieu, face-à-face avec les autres et avec soi-même, et une prise de conscience qui est tellement, qui est possible d'être vécue, parce que je le répète, elle n'est pas vécue face à un règlement moral condamnateur, le surmoi qui nous pointe du doigt et qui nous dit que nous sommes coupables, elle est vécue face à un Dieu qui nous dit qu'il a compassion et qu'il pardonne. Troisième saison, alors là, je n'y comprends plus rien. Je n'y comprends plus rien. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos voix. Non, mais franchement, vous m'avez suivi. J'ai parlé de la première saison. Quel émerveillement devant Dieu, quelle écoute de sa voix, quelle la décision de le suivre, de faire alliance avec lui. J'ai parlé de la deuxième saison, qui est la reconnaissance lucide, honnête de nos ombres, la volonté de les confesser. Celui qui confesse ses péchés sera justifié. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Bref, confesser nos ombres, les confesser pour les apprivoiser en vivant de la miséricorde et du pardon de Dieu. Mais après ces deux premières saisons, on est au ciel. On devrait être directement au ciel. Après ces deux premières saisons, ben voilà, on est prêt pour monter au paradis, au ciel, puis être dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que cette troisième saison a à nous dire ? C'est bizarre. Eh bien, chers amis, elle est centrale. Et c'est l'une des saisons de la foi, l'une des saisons de la vie avec Dieu. Et cette parole, mes pensées ne sont pas vos pensées, nous apprend quelque chose de fondamental. Dieu est Dieu. Et ça, je dois le dire, et j'ai plaisir à le dire à des amis chrétiens, mais je le dis aussi à moi-même, Dieu est Dieu. Dieu est toujours plus grand que ce que nous pensons et nous disons de lui. Est-ce que vous vous rendez compte de cela ? Parfois, je rencontre des chrétiens qui ont l'impression d'avoir tout dit, de tout savoir, de tout connaître, de tout dire, de tout exprimer. Puis une fois qu'ils se sont abondamment livrés à leur témoignage, on a l'impression que voilà, tout est dit sur Dieu. Non, c'est pas vrai. Dieu est toujours plus grand que tout ce que nous pouvons dire et penser de lui. Dieu reste un Dieu insaisissable qui ne sera jamais vraiment cerné et compris. Oh, Dieu est toujours au-delà de tout ce que tu connais de lui. C'est la théologie orthodoxe qui a mis l'accent sur cette manière de comprendre Dieu. D'ailleurs, dans un mot un peu savant, elle parle de théologie apophatique, c'est-à-dire de théologie qui s'exprime au-delà de ce qui peut être dit. Dieu ne peut pas s'enfermer dans nos énoncés. Même nos énoncés positifs, c'est pour ça que parfois certains théologiens ne parlent de Dieu qu'en disant ce qu'il n'est pas. Alors oui, on peut dire ce qu'il n'est pas, ça on est capable de le dire, et il y a beaucoup de belles choses à dire qu'il n'est pas. Il n'est pas injuste, il n'est pas ingrat, il n'est pas ignorant, il n'est pas, ça on peut le dire. Mais dire exactement ce qu'il est, il faut le dire, mais cela nous échappe. En dernier ressort. Donc Dieu est toujours plus grand que tout ce que j'ai compris de lui. C'est aussi l'une des conclusions du merveilleux chapitre à l'amour de Corinthiens, Corinthiens 13. Notre connaissance a des limites. Notre prophétie est limitée. Notre prophétie, nos parlers sur Dieu est limitée. Nous ne connaissons qu'en partie. Donc c'est important de saisir ses limites. Dieu est infiniment plus grand que tout ce que l'on peut dire et penser de lui. Tout ce que nous affirmons au sujet de Dieu, aussi exact que cela soit-il, est encore bien loin de la réalité. Nos mots ne peuvent ni contenir la plénitude de Dieu, qui lui est totalement transcendant. Et c'est ça le paradoxe de la foi chrétienne. Il faut parler. Nous sommes obligés de parler. Et nous devons célébrer Dieu par notre bouche. Et la foi chrétienne s'enseigne, elle se transmet, elle se donne au catéchisme, aux ateliers bibliques, aux prédications qui sont utiles et nécessaires. Et pourtant, tout ce bagage intellectuel, toute cette somme de connaissances ne permettra jamais de posséder Dieu et de dire sa réalité ultime. Vous savez, prêcher est toujours un défi. Maintenant que j'arrive un peu, à un terme, c'est peut-être le moment de vous le dire, mais prêcher est toujours un défi. D'ailleurs, Karl Barth, le grand Karl Barth, nous dit que prêcher la prédication est une détresse. Oui, il faut le dire. Et si je vous disais le nombre d'heures, mais moi j'ai le droit parce que je suis censé être retraité, mais si je vous disais le nombre d'heures que j'ai passées pour vous livrer ce que je vous livre ce matin, le nombre de papiers blancs que j'ai gribouillés puis que j'ai mis à la poubelle parce que ça ne correspondait pas à ce que je croyais que Dieu allait nous délivrer. J'ai donné quelques cours, oui, pendant 7 à 8 ans, j'ai donné des cours à des étudiants à l'école polytechnique. Bon, c'était modeste, il ne faut pas que je fasse ce fanfaron. C'était modeste, mais n'empêche, c'était des étudiants de la polytechnique. C'était beaucoup plus facile pour moi d'enseigner à l'école polytechnique que de vous apporter une prédication. Et pourquoi ? Ben, c'est tout simple. À l'école polytechnique, j'enseignais une matière. Dans une prédication, je parle d'une personne. Vous sentez la différence ? Et c'est ça la réalité de la foi chrétienne. La prédication, finalement, ne peut que suggérer Dieu, pointer du doigt vers Dieu. Et j'aime ce geste de Jean-Baptiste, repris dans le tableau de Grunewald. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aimerais illustrer ce que j'ai dit, si j'ai encore le temps, par trois exemples pratiques. Et c'est là que je plonge dans le témoignage de nos amis Oumar, Claude et Esther, il y a 15 jours. Claude nous a dit qu'à un moment donné, il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait permis l'épreuve qui les avait atteints. Et alors, ça a attiré chez lui, oui, une déception. Et ça a créé, c'est juste si je le dis comme ça, une espèce de voile, d'écran entre Dieu et toi. Et ça m'a beaucoup touché, et c'est vrai. Nous avons tendance, même après des années de vie chrétienne, d'attribuer à Dieu, de projeter sur Dieu nos désirs spontanés. Mais cela, c'est abusif. Alors, je fais vite hein, pour quelques expériences. Je me souviens toujours d'une autostoppeuse que j'avais prise, mais il y a très très longtemps, mais je ne l'ai jamais oubliée. Quand je lui ai dit que j'étais pasteur, elle m'a dit « Ah, Dieu, j'y crois pas, j'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans, donc Dieu n'existe pas. » Voilà ces espèces de déductions logiques que l'on se construit. Et moi-même, je vous le confie, que aussi à l'âge de 12 ans, j'ai, dans un cadre oui, bien particulier, j'ai eu une grosse déception parce que j'avais prié en demandant à Dieu qu'il m'exauce. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Bref, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Il ne m'a pas exaucé. Et comme j'ai un tempérament quelque peu rebelle, ceux qui me connaissent, et en particulier dans nos voyages, savent que c'est vrai. Alors, mon côté rebelle a fait que j'ai dit à Dieu, c'est en ordre, on ne se cause plus, je ne te connais plus, je ne veux plus que tu t'intéresses à moi, c'est terminé entre toi et moi. C'était le samedi à 14h, je me souviens très très bien, parce que c'était lié à mon cycle scolaire, à des annotations sur le carnet, enfin voilà, etc. Bref, samedi, j'ai tenu le coup. Dimanche, j'ai tenu le coup. Lundi soir, je me suis effondré. J'ai dit, non, je suis vraiment un enfoiré. J'ai dit, l'idiot, c'est moi, c'est pas toi. Et j'avais 12 ans. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Et si, Liliane le sait bien, si nous avons pu traverser tant d'épreuves dans la vie, et il y en a eu, et en particulier des épreuves liées à la vie de l'Église, c'est parce que je n'ai jamais reporté sur Dieu mes déceptions. En Afrique, j'ai rencontré des missionnaires qui sont rentrés athées. Ils avaient reporté sur Dieu leurs déceptions. Chers amis, ne reportez jamais sur Dieu vos déceptions. Si vous êtes déçus, il n'y a que vous qui êtes en cause. Il n'y a que moi qui étais en cause. C'était moi qui étais un enfoiré de croire que Dieu allait comme ça répondre à mes petits caprices. Ah ah ! Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et alors, je vous ai, comme dernier exemple, je vous ai invité à lire le naufrage, enfin, la tempête de l'apôtre Paul dans le livre des Actes. Parce que cette tempête, c'est très intéressant. Il faut la lire, mais la lire un peu en relief. Il faut que je fasse plus court. L'apôtre Paul, on lui dit, il a l'intuition qu'il y a une tempête qui va venir. L'apôtre Paul le dit aux officiers, le dit à tous les commandants du bateau, il s'en fiche, tu ne nous intéresses pas. Mais enfin quand même, Dieu, tu aurais pu convaincre les officiers, tu aurais pu convaincre le commandant que Paul avait raison, et faire un miracle, montrer que Paul était quelqu'un qui parlait de toi. Ça ne m'intéresse pas. La tempête commence, elle dure combien de temps la tempête ? 14 jours. Vous imaginez 14 jours de tempête. Vous qui avez connu des tempêtes sur la mer ou ailleurs, et vous qui vivez des tempêtes en disant ça fait 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans que je vis quelque chose de dur. 14 jours de tempête et Dieu n'a pas levé le petit doigt. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et finalement, il y a eu un miracle. Mais tout à la fin de la tempête, après qu'il y ait beaucoup de mal qui sont survenus au bateau et à tout le monde. Une autre chose, quand vos pensées ne sont pas mes pensées, c'est face à la diversité. Je suis né dans un berceau évangélique, comme peut-être beaucoup d'entre vous, mais pas tous, heureusement. Et alors, dans ce berceau, évidemment, j'étais bien, c'était cocooning, c'était bien, comment est-ce qu'on dit que les enfants, ils font des barbituriques, enfin des machins, dans leur berceau, là, ils gazouillent. Je gazouillais dans mon berceau, c'était magnifique, je gazouillais, c'était heureux. Et j'étais convaincu parce qu'il y avait mon berceau qui était bien fermé, avec un couvercle, avec un rideau, etc. Mon berceau évangélique, j'étais convaincu qu'il n'y en avait pas d'autre. Et que c'était le seul, puisque c'est celui qui m'a fait naître. Puisque c'est là que j'ai découvert Dieu. Puisque c'est là que Dieu m'a parlé, c'est là que Dieu m'a aimé, m'a pardonné et que j'ai vécu de tant de belles expériences. Donc c'est normal que c'est le seul légitime. Puis quand j'ai eu 20 ans, 25 ans, quand j'ai un peu ouvert les yeux, j'ai découvert qu'il y avait d'autres berceaux à côté de moi. Mais ça m'a agacé, ça m'a angoissé et ça m'a mis en colère. Mais c'est pas possible, ces bébés dans les autres berceaux, ils ont rien à faire, il faut qu'ils viennent dans mon berceau. Puis voilà, à la fin de ma vie, je découvre qu'en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. Si je vous ai parlé de telle et telle manière, si Dieu s'est révélé à moi dans mon berceau évangélique, il a fait la même chose en orthodoxe, il a fait la même chose en catholique, il a fait la même chose en protestant, il a fait la même chose en baptiste, en pentecôtiste, en adventiste, etc., etc. Donc j'ai dû apprendre à accueillir cette diversité. Dieu est toujours plus grand que tout ce que je peux dire de lui. Et Dieu est plus grand que ma manière de le comprendre et ma manière d'en témoigner. Et puis, la dernière exemple, c'est Élie, le grand prophète, qui sur le Sinaï a dû découvrir que Dieu n'était ni dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un silence d'un son inaudible. Si vous arrivez à reproduire ce que c'est, je vous félicite. Donc, cette troisième saison s'enracine dans la profondeur d'une communion intime avec Dieu. Où Dieu, chers amis, n'est plus servi et adoré pour ce qu'il nous donne, venez à moi, je vous donnerai gratuitement du pain, de l'eau, buvez, mangez, c'est magnifique, venez à moi. Ben non, c'est plus Dieu là. Ce Dieu de la troisième saison, c'est un Dieu qui est aimé et adoré pour ce qu'il est. Et parfois même, aimé et adoré pour son silence sur la croix. Et je l'aime parce que je veux rester en communion avec lui dans son silence sur la croix. Alors nous pouvons passer à la quatrième étape, la quatrième saison qui couvre les versets 10 à 13. C'est magnifique cette dernière saison, c'est vivre la fécondité de Dieu. Vivre la fécondité de Dieu. La prise de conscience de la vraie nature de Dieu nous permet de mieux prendre conscience de notre fragilité et nous libère de nos illusions de perfection. Nous ne sommes plus écrasés par notre pauvreté spirituelle ni crispés sur nos fautes. Nous savons que Dieu travaille aussi au travers de nos faiblesses. Et Dieu conduira toutes choses à bonne fin. Alors, nous découvrons que la personne que Dieu aime avec la tendresse d'un père, eh bien, oui, il désire nous rejoindre. La personne que Dieu aime n'est pas tant celle que j'aime, j'aurais aimé être, mon moi idéal, ma représentation idéale de moi-même, mais c'est vraiment la personne que je suis, avec mes limites, mes faiblesses. Et cela nous permet d'entrer dans un temps de fécondité. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Vous voyez que ce mot fécondité, il se trouve dans le texte que je vous ai proposé. La fécondité, c'est synonyme à plus de sérénité. Nous n'avons plus besoin de prouver à nous-mêmes et aux autres nos valeurs. Nous découvrons qu'il y a des combats qui deviennent inutiles, sans pour autant devenir des lâches. Nous découvrons que nous pouvons développer une immense confiance à Dieu sans pour autant être fataliste ni résigné, mais une confiance dynamique dans la souveraineté de Dieu. Nous découvrons que nous ne sommes plus le produit de nos réussites ou le produit de nos échecs. Nous devenons moins sensibles aux pressions et aux attentes des autres et de la société. Nous sommes heureux lorsque nous vivons de belles expériences et nous sommes paisibles lorsque nous vivons des échecs. D'ailleurs, le mot paix, il est aussi là dans le texte que je vous ai proposé. Cette saison, elle est marquée par la paix de Dieu. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Et la paix, je vous l'ai dit, c'est l'aspiration ultime. Première, ultime, mais première aussi, la plus profonde qui est au fond du cœur de l'homme. Et comme je vous l'ai dit, que le paradoxe, c'est que toutes les guerres sont entreprises au nom de la paix. Alors que la vraie paix, c'est celle que Dieu donne. Je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne, bon, maintenant on sait pourquoi. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne la paix, la vraie paix. Non pas une paix liée aux circonstances, non pas la paix du riche qui a accumulé des trésors, la paix d'une confiance inébranlable en Dieu. Parce que nous réalisons que notre identité, que nos sources, que notre racine sont en Dieu, dans ce Dieu mystérieux. Et ce sera mes derniers mots, un Dieu qui se plaît à demeurer en nous par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit que Jésus appelle le Paraclète, et je vous rappelle que Paraclète, ça veut simplement dire « appelé à côté ». Donc, le Saint-Esprit que Dieu se plaît à faire demeurer en nous, c'est celui qui est à côté de nous pour nous aider à vivre. Bon, regardez dans la société, qui c'est qui nous aide à vivre? Bon, c'est nos parents, c'est nos voisins, c'est le pédagogue, c'est l'infirmier, c'est les avocats. Voilà les gens qui sont porteurs du Saint-Esprit de Dieu pour nous aider à vivre. Une présence du Saint-Esprit vécue tout simplement parce que nous savons que et c'est encore le 13e chapitre de Paul aux Corinthiens qui nous le dit. Nous savons que tout va passer. Seules trois choses vont demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des trois, c'est l'amour. Donc la seule chose qui nous compte finalement, c'est d'être accueilli, d'être recueilli en Dieu, parce que c'est l'horizon de tout. Puisqu'il nous est promis qu'il remplira tout et en tous. Et c'est cela que j'appelle la saison de la fécondité ou de la fertilité en Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci. Parce que si nous pouvons parler ainsi de toi, c'est que nous savons que tu prends soin de nous. Tu veux veiller sur nous avec une tendresse toute particulière, même lorsque tu te tais, même lorsque nous traversons 14 jours, 14 semaines, 14 mois ou 14 ans de tempête, tu es encore là. Parce que nous sommes précieux pour toi, puisque nous sommes l'objet même de cette création merveilleuse. Seigneur, que ton esprit descende tout à nouveau sur nous pour faire vivre la tendresse de Dieu en nous. Amen.